Et bien sûr, quelqu'un qui connaissait bien cet amour, même ce pardon de la part de Dieu, c'était Pierre. Et je vous invite à trouver la première épître de Pierre, chapitre 4. La première épître de Pierre, chapitre 4. Ce matin, nous allons parler d'une vie radicale. Alors, rassurez-vous, ce ne sera pas le radicalisme islam. Bien sûr que non. Bien que c'est un peu... dans les nouvelles aujourd'hui, aux infos. Non, c'est la vie radicale selon Dieu, selon la parole, puisque ce que Pierre va expliquer dans ces versets est tellement radical. Lorsqu'on lit, lorsqu'on comprend, on voit qu'on a beaucoup de progrès encore à faire. Moi-même, je lis ces versets et je me dis, aïe, j'ai encore des choses à changer dans ma vie, j'ai encore des choses à comprendre. Alors, si vous êtes avec moi dans la première épître de Pierre, chapitre 4, à partir de verset 12, nous lirons jusqu'à la fin du chapitre. Suivez avec moi. 1 Pierre, chapitre 4, verset 12. « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais... si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi. Tu vois toutes choses, rien n'est caché à tes yeux et nous demandons ton aide pour comprendre ta parole. Que tu transformes, nous, par cette parole puissante, que tu enlèves tout ce qui est en nous, qui n'est pas agréable à toi, qui n'est pas conforme à ta volonté. Que tu nous instruises à travers ce passage et que tu nous aides par ta puissance. En ton nom. Amen. Pierre va beaucoup parler de la souffrance. Et si je devais vous poser la question aujourd'hui, est-ce que vous souffrez? La réponse serait peut-être pour la plupart d'entre vous, oui. Maintenant, bien sûr, toute souffrance n'est pas pareille. La souffrance de l'un ne sera pas exactement pareille que la souffrance de l'autre, n'est-ce pas? Et la souffrance par laquelle moi je passe sera peut-être minime par rapport à la souffrance d'une autre personne. Ou peut-être l'inverse, ma souffrance sera tellement énorme. Et puis finalement, la souffrance de quelqu'un d'autre, bien que ce soit triste, la souffrance de quelqu'un d'autre est bien moindre que la souffrance par laquelle moi je passe. Et puis, la souffrance vient de différentes façons. Parfois, nous souffrons parce que nous subissons des choses. Un peu comme les chrétiens auxquels Pierre écrivait. Ils étaient persécutés. Ils souffraient pour leur foi. Mais aussi, il y a la souffrance qui vient par nos mauvais choix. Parfois, on fait des mauvais choix. Et à ce moment-là, on souffre. Mais là, cette souffrance, elle est tout à fait légitime. Nous pouvons dire, nous la méritons. Ce n'est pas pour autant qu'elle est moins forte, mais nous la méritons. Et Pierre va développer un peu cela dans ses versets. Mais il va commencer au verset 12, et je suis tellement réconforté avec ces quelques premiers mots de ce verset, puisqu'il dit « mes bien-aimés ». Il parle à des chrétiens, des personnes qui connaissaient Christ comme leur sauveur personnel. C'était des personnes, peut-être que Pierre, pour certains d'entre eux, Pierre connaissait personnellement. Et il dit, mais bien-aimés, mes frères et sœurs en Christ, comme Paul va le dire, mes compagnons de service. Et même si Pierre était loin de ces chrétiens, bah, il leur écrit dans cette perspective, mes frères et sœurs, je vous aime. C'est vrai, vous passez par ces moments difficiles, c'est compliqué, vous avez mal, vous souffrez, mais je vous aime, je ne vous laisse pas. Et bien sûr, Dieu ne vous laisse pas. Il va dire, mes bien-aimés. Par contre, si Pierre commence avec une phrase qui est tellement simple, mes bien-aimés, eh ben, il va suivre cela avec une phrase qui est tellement complexe. Et on se dit, mais Pierre, tu ne pouvais pas rester un peu plus simple? Parce qu'il va dire, ne soyez pas surpris par la souffrance par laquelle vous passez. Et il est vrai que par moments, la souffrance nous surprend. On ne s'y attend pas. Quelque chose nous arrive. Ici, spécifiquement, c'est la persécution. On s'en prenait littéralement à ces chrétiens. On les pourchassait, on mettait certains à mort. Et Pierre dit, ne soyez pas surpris. Ne trouvez pas que c'est quelque chose d'étrange, que c'est quelque chose d'anormal. Et Pierre est obligé de dire cela parce que malheureusement, notre perspective, c'est que la souffrance, à chaque fois, est quelque chose d'anormal. La souffrance, la persécution, les ennuis, tout ce qui fait mal dans notre vie, ce sont des choses à éviter à tout prix. Et si je suis dedans et je n'arrive pas à m'en sortir, eh ben c'est parce que quelque chose ne va pas. C'est étrange, tout devrait aller bien. J'appartiens à Dieu. La vie, elle doit être en rose, n'est-ce pas? Et vous le savez, mais le rappel, il est nécessaire. Bien sûr, ce n'est jamais ce que Dieu promet dans sa parole. Non, Jésus a parlé plutôt de le suivre implique prendre sa croix, renoncer à soi-même. Et ici, Pierre est obligé de rappeler à ses chrétiens, qui le savaient sûrement très bien, et leur dit, mais ne soyez pas surpris, ne trouvez pas que c'est tellement étrange d'être dans ce que lui, il va appeler la fournaise de l'épreuve. Là, cette image, elle est forte. Le feu, brûler. Le feu, ça fait mal. Vous savez, vous avez déjà fait l'expérience, vous mettez votre main au-dessus du feu. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, vous brûlez, ça fait mal. Et Pierre dit, la circonstance dans laquelle vous êtes, ça fait mal, oui. Ne jamais minimiser cela. En même temps, il dit, mais ne pensez pas que vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire. Ne pensez pas que Dieu vous a laissé tomber. Ne pensez pas que c'est parce que vous avez mal agi, forcément. Ça, il va évoquer dans les versets qui suivent. Et il dit, ne cherchez pas à tout prix non plus à vous en sortir. Si vous arrivez à vous en sortir, ben tant mieux, gloire à Dieu. Mais il dit, ben, ne cherchez pas à tout prix à vous en sortir. Verset 12, Pierre va dire, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, normal. C'est quelque chose qui arrive à tous les chrétiens. Ici, à Vernon, partout en France, dans d'autres pays, aucun chrétien a le droit de dire « Ceci m'arrive, tous les autres chrétiens sont tranquilles et moi je n'ai que des épreuves. » Non, 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 non. Dans ce monde de péché, dans ce monde où nous nous tenons pour la vérité, pour la justice, pour la parole de Dieu, nous allons subir des épreuves, nous allons subir la souffrance. Nous allons subir des obstacles. Et Pierre dit, bah, ne pensez pas que ce soit une chose étrange, comme quelque chose d'anormal. Non, il dit, c'est tout à fait normal. Et le verset 13, comme je veux être honnête avec vous, j'aurais bien aimé qu'il ne soit pas là. On est au sein, imaginez-vous, essayez de vous mettre dans l'esprit. On est dans ce que Pierre appelle la fournaise de l'épreuve. Il fait chaud. On a mal. Un peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Hein, il fait chaud. On est mal. Il y a la souffrance. On a l'impression que tout le monde est contre nous. Rien ne va. Et Pierre dit, réjouissez-vous. Et je vois ça sur la page. Et j'y crois. Croyez-moi, j'y crois fermement. Mais si je suis honnête et si vous l'êtes, est-ce que c'est notre première réaction? Non, je pense pas. Si ça l'est pour vous, bah, tant mieux, gloire à Dieu. Hein? Mais en général, ce ne sera pas notre première réaction. Réjouissez-vous. Ah, mais comment ça, Pierre, tu ne connais pas ma circonstance. Non, mais Pierre, tu ne connais pas le mal par lequel je passe. Tu ne sais pas depuis combien de temps ça dure. Oui, mais Dieu le sait. Et Dieu a inspiré Pierre à écrire ceci pour les chrétiens du premier siècle. Et il leur dit, c'est vrai, vous passez par ces souffrances. On s'en veut à vous. Oui, c'est vrai. Mais vous avez la possibilité, par la puissance de Dieu, de vous réjouir au milieu de cela. Et je ne sais pas si vos pensées vont vers ce verset dans Actes chapitre 5. Pierre et Jean, donc Pierre l'avait vécu. Ils ont été battus par les chefs religieux. On leur a défendu de parler au nom de Jésus. Alors, ils reviennent vers les disciples. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se réjouissent d'avoir été trouvés dignes de souffrir pour Christ. Si ça, ce n'est pas une attitude radicale, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et aujourd'hui, dans notre monde, il y a tant besoin pour les chrétiens de manifester cet esprit-là. Les chrétiens passent par des épreuves tout comme tout le monde. Les inconvertis, ils ont des soucis aussi, vous le savez. Ils ont mal. Et eux, ils essaient d'y faire face par leurs moyens. Ils essaient par des médicaments, des calmants, des antidépresseurs, la boisson, la drogue, tout ce que vous voulez. Et en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Lorsqu'il y a des choses difficiles qui viennent dans la vie, parce qu'elles viendront, est-ce que notre première pensée, c'est de nous réjouir en Dieu? Non pas être content qu'on est dans la souffrance, comme quoi, « Ouais, je souffre, merci Seigneur !» Ce n'est pas ça, vous le savez. Non. Mais au sein de cette souffrance, d'avoir la possibilité de se confier en Dieu, et dans cette souffrance, de pouvoir témoigner de la puissance de Dieu. Et c'est justement ce que Pierre relève dans ce verset 13. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Pierre se souvient sûrement de ce que Jésus a dit dans la chambre haute, Jean chapitre 15. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Pierre a entendu cela. Il était présent quand Jésus a prononcé ces paroles. Et Pierre encourage ces chrétiens. Vous passez par ces souffrances, ça fait mal. En même temps, vous avez la possibilité d'imiter Jésus-Christ. Jésus-Christ a souffert. Jésus-Christ est allé jusqu'à la mort pour nous laisser un exemple. Et si Jésus-Christ est passé par ces choses, ben oui, la souffrance viendra dans notre vie, mais nous pouvons agir comme lui. Et Pierre dit, oui, se réjouir, connaître qu'on a part aux souffrances de Christ. Pourquoi? Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Pierre ici met l'accent sur le fait que Jésus-Christ reviendra. Un jour, ça peut être aujourd'hui, Jésus-Christ reviendra. Et ce sera peut-être au milieu d'une souffrance par laquelle vous passez. Et à ce moment-là, essayez de vous mettre dans la tête, dans l'esprit, la scène. Vous passez par la souffrance. Quelque chose vient de vous arriver. Quelqu'un vous insulte, quelqu'un vous fait obstacle, quelque chose arrive. Et à ce moment précis, vous réagissez mal. Vous vous emportez, vous avez une mauvaise attitude, peu importe, mais vous réagissez mal. Et sur le coup, Christ revient. Imaginez-vous. À ce moment-là, j'ai l'impression qu'on se sentirait très mal, non? Mais au contraire, si, alors que nous sommes dans la souffrance, nous sommes mal, ça fait mal, et on réagit bien, on se confie en Dieu, on se réjouit que Dieu est notre soutien et que Jésus-Christ revient à ce moment précis, imaginez-vous la joie. L'allégresse, comme Pierre va le dire, ces éclats de reconnaissance lorsque Jésus-Christ reviendra. Puisque nous ne savons pas à quel moment Jésus reviendra, devant chaque souffrance, devant chaque épreuve, nous devons bien agir. Parce que ça peut être le moment où il reviendra. Et quand il reviendra, est-ce qu'il va nous trouver en train de nous réjouir de son soutien, de sa force? Ou est-ce qu'il va nous trouver en train de râler, de murmurer, de mal réagir? Pierre dit, réjouissez-vous. Mais il va plus loin. Puisqu'au verset 14, nous l'avons lu tout à l'heure, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, et il sous-entend qu'on le sera, ça viendra. Parce qu'on est chrétien, les gens vont dire, ben ça je n'en veux pas. Il dit, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Franchement, Pierre, ce n'est pas le mot que j'aurais choisi. Ce n'est pas l'adjectif que moi j'aurais mis là. Pitié de nous. On nous outrage. On nous met des bâtons dans les roues. On s'en prend à nous. On nous insulte. On se moque de nous. On est indifférent. Alors, pauvre à nous, petite église de Vernon, des chrétiens avec peu de force. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Non, vous êtes outragés, le monde réagit face à vous parce que vous vous tenez pour Jésus-Christ. Pierre dit, vous êtes heureux. Est-ce que vous vous regardez heureux lorsque, au travail, des collègues de travail inconvertis se moquent de vous, sont complètement fermés? Cette idée est souvent loin de notre esprit d'être heureux pour cela. Mais Pierre dit, vous êtes heureux. Pourquoi? Ben, il nous donne la raison. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu, donc cet esprit glorieux qui est Dieu lui-même, repose sur vous. Et ici, Pierre donne la clé. Cette bonne réaction, pouvoir se réjouir, pouvoir se voir comme heureux face à la souffrance, face au mal qui nous est fait, ne vient pas de nous. Nous le savons. Par nous-mêmes, nous sommes complètement incapables. Par nous-mêmes, nous allons échouer à chaque fois. Mais si nous pouvons bien réagir, si nous pouvons avoir la bonne attitude, Pierre dit, ben c'est parce que Dieu le fait. Un enfant de Dieu qui réagit bien, qui va rayonner de la paix, de la joie de Dieu, ça ne peut qu'être un encouragement, un réconfort pour ceux qui l'entourent. Ce qui fait que l'inverse est vrai. Lorsque je réagis mal, lorsque je parle mal, lorsque je me plains, lorsque j'ai de mauvaises pensées au sein de ma souffrance, lorsque je m'en prends à ceux qui m'entourent, lorsque je m'emporte, lorsque je ne réagis pas du tout comme Dieu veut, je manifeste par là que je ne veux pas l'aide de Dieu. Je manifeste par là que je crois que je suis capable d'affronter ces choses par moi-même. Et à ce moment-là, je vais tomber, c'est sûr et certain. Pierre dit, la bonne réaction face à la fournaise d'épreuves, face aux souffrances, face au mal dans le monde, la bonne réaction face à cela et passe uniquement par la puissance de Dieu. Et de se poser la question, eh ben, est-ce que je la demande cette puissance ? Nous souffrons, on l'a évoqué tout à l'heure, à différentes manières. Et ces souffrances vont durer plus ou moins longtemps. Mais est-ce que je demande l'aide de Dieu ? Et est-ce que je suis persévérant dans cela ? Ce n'est pas juste une fois pour toutes. Ce serait super, formidable. Mais ça ne l'est pas. Est-ce que je continue de demander l'aide de Dieu ? Parce que encore une fois, Jésus-Christ revient. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être au milieu de la souffrance, l'épreuve par laquelle vous passez. Et comment est-ce qu'il va vous trouver à ce moment-là ? En train de lui faire confiance avec un bon témoignage ? Ou en train de vous plaindre, de râler, d'avoir une mauvaise attitude ? Nous savons ce que Dieu cherche. Il veut cette bonne attitude qui lui fait confiance. Par contre, verset 15, Pierre va soulever quelque chose qui, quelque part, nous semble évident. Et pourtant, Pierre a trouvé bon de mettre l'accent là-dessus. Verset 15, que personne, alors sans exception, personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Et là, on va dire, mais c'est logique. Quelqu'un qui fait ces choses, il est logique qu'il soit puni. Il est logique qu'il souffre quelque part. Et lorsque nous prenons cette liste, que quelqu'un ne souffre pas comme meurtrier, on va dire, mais moi, j'ai jamais tué personne. Enfin, j'espère, vous, je vous connais, enfin, la plupart d'entre vous, à ma connaissance, personne ici n'est tué quoi que ce soit. Et que ça ne change pas. Okay? Mais souvenons-nous de ce que Jésus a dit. Celui qui déteste son frère dans son cœur, c'est comme s'il l'a tué. Donc ici, ce n'est pas l'acte lui-même, mais c'est aussi l'attitude du cœur. Est-ce que je suis en colère ? Est-ce que je suis dans la haine contre quelqu'un ? Cette attitude est condamnable. Et je dois m'en repentir. Parce que sinon, je risque de souffrir à cause de cela. Et je ne peux pas réclamer de me réjouir là-dedans. Non, non, non. Cette souffrance, je la mérite. Ou voleur. On va dire, mais je ne suis pas un voleur, moi. Israël, dans l'Ancien Testament, ne se considérait pas comme voleur. Mais Dieu a dit très clairement à son peuple, vous n'apportez pas les offrandes, les sacrifices dans le temple, alors vous me volez. Peut-être on ne vole pas les hommes. Est-ce qu'on vole Dieu ? Une question sérieuse à se poser. Dieu nous confie des biens. Qu'est-ce que nous en faisons ? Est-ce que nous gardons tout pour nous-mêmes ? Ou est-ce que nous redonnons une partie à Dieu ? Dieu nous voit-il comme un voleur parce qu'on ne lui redonne pas ce qui lui est dû ? Ou malfaiteur ? Quelqu'un qui sème le trouble ? Est-ce que ça me décrit ? Ça ne devrait pas. Quelqu'un qui s'ingère dans les affaires d'autrui ? Est-ce que je mets mon nez là où je ne dois pas ? Est-ce que je m'intéresse à droite et à gauche à tout ce qui se passe ailleurs sans m'occuper de mes propres affaires ? Pierre dit, si quelqu'un fait ces choses et qu'il en souffre, cela est légitime. On ne peut pas réclamer la puissance de Dieu pour faire face à cette souffrance lorsque nous souffrons de cette manière. Alors, d'examiner notre vie. En tant que chrétien, souvent on dit, mais on n'est pas comme le monde. On ne fait pas les choses du monde. Et je prie que ce soit le cas, mais est-ce que finalement, parce que nous croyons être peut-être un peu mieux que le monde, on se laisse aller un peu, on se permet certaines attitudes, certaines paroles, certains gestes, un certain laxisme Pierre dit, non, il faut se tenir dans la vérité, il faut se régler sur la parole de Dieu. Et c'est là, au verset 16, Pierre va dire, mais, donc qu'on ne souffre pas comme quelqu'un qui est décrit dans le verset 15, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Et j'ai lu ça et je me suis posé la question, peut-être vous la posez aussi, mais pourquoi est-ce que quelqu'un aurait honte de souffrir pour Christ? Question légitime, parce que Pierre dit qu'il n'en ait pas honte. Ça veut dire qu'apparemment, certains, à son époque, avaient honte de souffrir pour Christ. Mais pourquoi la honte? Et plusieurs raisons, mais je trouve qu'avec le contexte, la raison qui semble la plus légitime, c'est que ces personnes croyaient être des sous-chrétiens, des chrétiens qui n'étaient pas très spirituels puisqu'ils souffraient. Donc, ils essayaient de cacher un peu leur souffrance, cette fournaise de l'épreuve, parce qu'ils se sont dit, bah, si les autres connaissaient les souffrances, les épreuves par lesquelles je passais, ils penseraient moins de moi, parce qu'un vrai chrétien, il n'a pas à passer par ces choses-là. Et Pierre dit, non, non, non. Si on est chrétien et pour notre foi, on souffre pour Dieu, à ce moment-là, pas du tout besoin d'avoir honte. Non, il dit au contraire qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Lorsque nous souffrons pour Dieu, c'est plutôt une cause, une occasion de glorifier Dieu, de dire, eh ben, Dieu a permis cette situation dans ma vie et maintenant j'ai la possibilité d'avoir la bonne attitude par Dieu. Pas besoin de cacher la souffrance par laquelle nous passons. Pas besoin de penser qu'on est moins que les autres si nous souffrons peut-être plus. Non, au contraire. Et puis, lorsque bah, nous exposons notre souffrance, lorsque nous disons « oui, c'est vrai, je passe par telle ou telle situation », cela permet aux autres de mieux prier, de pouvoir apporter une aide à ce moment-là. Alors, Pierre dit ici, bah, cette souffrance par laquelle nous passons, finalement, il ne faut pas la cacher. Il ne faut pas faire tout un cinéma, bien sûr, mais il ne faut pas la cacher. Et ensuite, vient deux versets assez difficiles, je ne vous le cache pas, où Pierre va expliquer que Dieu est un Dieu de jugement. Verset 17. Après avoir parlé de la souffrance, après avoir parlé de comment le chrétien doit réagir face à cela, verset 17, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Alors là, on parle des enfants de Dieu. Okay? Enfants de Dieu en général, peut-être Pierre pensait à une église locale spécifique, il ne précise pas. Mais ce jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Alors, qu'est-ce que Pierre veut dire dans ces versets? Parce qu'on pourrait tirer toutes sortes de conclusions. Mais lorsque nous lisons ces versets, nous comprenons que Dieu, il veille sur ses enfants. Et Dieu est hautement intéressé par le comportement de ses enfants. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que Dieu va dire bah, « Allez, faites comme vous voulez, vous êtes mes enfants, vous êtes sous la grâce, alors comportez-vous exactement comme vous voulez, peu importe, sans aucune conséquence. » Ah non, 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 nous le savons, cela est totalement faux. Et Pierre dit « Le jugement de Dieu bah, commence par la maison de Dieu. Dieu s'occupe en premier de ses enfants. Vous qui êtes parents, bah, c'est pareil pour vous. » Avant d'occuper les enfants des autres, si vous le faites, bah, vous occupez quand même de vos propres enfants. Sinon, vous n'êtes pas bon parent. Et Dieu, en tant que bon Père céleste, bah, il s'occupe en premier de ses enfants. Et le jugement dont il est question dans ce verset n'est pas le jugement éternel. Comprenons bien. puisque le salut des chrétiens n'est jamais en question. Ici, quand nous parlons de jugement qui va commencer par la maison de Dieu, ce n'est pas pour savoir est-ce qu'on est réellement sauvé ou pas. Est-ce qu'au dernier jugement, on va vraiment se trouver du bon côté ou pas? Non. Ici, c'est le jugement, c'est l'examen de nos œuvres que Dieu va faire. Paul, il va en parler dans la première épître aux Corinthiens. Et le raisonnement de Pierre, c'est le suivant. Dieu examine ses enfants. Dieu les juge dans leurs œuvres. Et si Dieu fait ça avec ses enfants, qui lui appartiennent, qui sont sûrs du salut éternel, combien plus Dieu va le faire envers ceux qui ne le connaissent pas. C'est ce qu'il explique dans la suite de verset 17. Si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu, c'est-à-dire les inconvertis. Si nous, nous n'échappons pas à l'examen de Dieu, les inconvertis encore moins. Ils auront à répondre devant Dieu pour leurs mauvaises actions. Et comme ils ne connaissent pas Dieu, comme ils n'ont pas accepté Christ comme leur sauveur personnel, ils n'auront que leurs œuvres. Et leurs œuvres ne seront pas suffisantes pour les sauver. Dans ces versets, Pierre dit, Dieu veille sur ses enfants, il les juge. Et parce qu'il juge ses propres enfants, combien plus il le fera avec les inconvertis. Et finalement, ça doit être une source d'encouragement. Pourquoi? Parce que souvenons-nous, ces chrétiens étaient persécutés. Et qui les persécutait? Ce n'était pas d'autres chrétiens. Non, c'était des inconvertis. Et de savoir qu'un jour, ces inconvertis vont répondre devant Dieu pour cette persécution, pour cette souffrance qu'ils ont infligée aux chrétiens, Pierre dit, ça doit vous encourager. Souvenez-vous, Dieu le juge, combien plus tous ceux qui vous font du mal, tous ceux qui vous mettent dans ces circonstances difficiles, Dieu va les juger également. La justice humaine, parfois, manque cruellement, oui, de justice. La justice humaine n'est souvent pas à la hauteur de ce qu'on attend. Et à cause de cela, on pourrait peut-être être tenté de remettre en question la justice de Dieu, en disant, mais est-ce que Dieu, réellement, à la fin, il va juger? Est-ce que quelque chose va arriver à ces personnes qui font tant de mal, qui semblent pouvoir échapper au jugement aujourd'hui? Nous pourrions être tentés de réfléchir comme cela. Mais Pierre nous affirme que le jugement vient. Un jour, Jésus va régler les comptes. Les livres seront ouverts. Et à cause de cela, nous pouvons supporter la souffrance qui nous vient dans cette vie. Les gens qui nous veulent du mal, les obstacles que nous avons, l'indifférence, le mépris, la moquerie, tout ce que nous pourrions subir dans ce monde, Dieu le voit. Dieu n'est pas indifférent. Et un jour, Dieu jugera. Et verset 18, Pierre explique que le sort des inconvertis est terrible. Si le juste se sauve avec peine, alors le juste ne se sauve pas lui-même. Non, s'il est juste, c'est parce qu'il a reçu Jésus-Christ comme son sauveur et il a été rendu juste. Donc comprenons bien ce verset. Mais ce n'est pas avec nos propres mérites, non. C'est sur les mérites de Jésus-Christ, rien d'autre. Et c'est à cela qu'il fait référence quand il dit « Le juste se sauve avec peine, ça ne vient pas de lui. » Que deviendront l'impie et le pécheur? C'est sous-entendu, eux, ils vont subir ce jugement éternel. C'est terrible. Et maintenant, Pierre arrive à la conclusion. Puisqu'il a parlé de cette souffrance, il a parlé de ce mal, il a parlé de cette réaction radicale que les chrétiens doivent avoir et qu'ils peuvent avoir. Il a parlé de ce que Dieu, lui, il fait. Et maintenant, ainsi, donc sur la base de tout ça, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. N'oublions jamais, parfois, alors comprenez bien, parfois, pas toujours, okay, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Parfois, la souffrance est la volonté première de Dieu. J'en veux pour preuve Job et Joseph, deux hommes remarquables de l'Ancien Testament. Parfois, la souffrance est la volonté de Dieu, la volonté première. Et même toute souffrance, finalement, est la volonté de Dieu parce que c'est Dieu qui l'a permis. La souffrance par laquelle vous passez, Dieu n'est pas impuissant pour l'empêcher. Si vous souffrez, ce n'est pas comme si Dieu n'était pas assez puissant pour vous empêcher cette souffrance. Non, Dieu aurait pu s'il avait voulu. C'est tout simplement dans son plan bon et parfait, il n'a pas choisi de le faire. Et Pierre dit que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, et ça c'est tous, remettent leur âme au fidèle Créateur. Alors ceci est frappant, parce que c'est le même terme, remettre, que Jésus va dire sur la croix. Je me demande si Pierre, ayant été là, au pied de la croix, ne s'est pas souvenu des paroles de Jésus-Christ. Quand Jésus va dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est le même mot. Qu'ils remettent leur âme au fidèle Créateur. De dire, Dieu, tout mon être, ma vie, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, entre tes mains. Parce que tu es celui qui m'a créé. Tu es celui qui est fidèle. Tu m'as fait des promesses et j'y crois. Je vais tenir bon. Et ici, Pierre appelle à l'imitation de Jésus-Christ qui remette leur âme au fidèle Créateur. Et comment concrètement est-ce qu'on fait ça? Juste avec les paroles? En disant, oui Dieu, je te remets mon âme, je te remets tout mon être, comme si ce sont des paroles magiques. Non, 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 non. Pierre dit, en faisant ce qui est bien. Même au sein de la souffrance, même lorsque les gens sont mauvais avec nous. Parfois, quand quelqu'un agit mal envers nous, on se permet d'agir envers cette personne. On dit, mais oui, mais cette personne m'a fait telle ou telle chose. Et cet esprit, on ne la trouve jamais dans la Bible. De rendre l'appareil. Bien sûr, ici, il n'est pas question de justice. Il faut toujours agir avec justice. Mais dans ce cas précis, lorsqu'il n'est pas, on va dire, question de justice, mais plus de revanche. Quelqu'un m'a fait du mal et là, ça me fait monter les émotions et là, je veux faire le mal. Je veux lui faire quelque chose. Pierre dit, notre objectif doit être de faire le bien. Pas simplement quand tout va bien, ça c'est facile. Mais même lorsque ça ne va pas. Quand les autres nous opposent, quand nous souffrons, quand nous avons mal, quand nous disons je n'en peux plus, Pierre dit, à ce moment-là, le chrétien doit être capable, par la puissance de Dieu, de faire le bien. Et si nous devions examiner nos actions et nos paroles pendant la semaine dernière, est-ce que vous pouvez qualifier toute action et toute parole de bien? Est-ce que vous êtes content de chaque action et de chaque parole de la semaine dernière? Avez-vous des regrets? Si on pouvait les refaire, est-ce que vous changeriez quelque chose dans votre réaction? Même si toutes les circonstances restaient pareilles. Ici, Pierre dit ce qui doit caractériser l'enfant de Dieu au sein de la souffrance, dans cette fournaise de l'épreuve, là où il fait chaud, là où on a mal, là où tout en nous nous pousse à mal agir, Dieu, par sa puissance, est capable de nous rendre forts pour bien agir. Pierre le dit, voici la volonté de Dieu. Voici ce que Dieu attend de nous. Et aujourd'hui, le dimanche, demain, cette semaine où nous entrons dans ces mois d'été, on va vers les vacances, on aura, Dieu voulant, du temps libre. Est-ce que nous allons nous exercer par la puissance de Dieu à bien réagir, à faire le bien, à pouvoir se dire avant d'agir, est-ce que ceci est bien, selon Dieu? Pas subjectivement, mais selon Dieu, selon la parole. Avant de parler, est-ce que ceci est bien? Est-ce que ceci va édifier? Est-ce que ceci va construire? Et lorsque nous posons ces questions-là, Dieu va pouvoir nous aider. Lorsque nous nous tournons vers Dieu, parce qu'il est le Tout-Puissant, il va pouvoir nous aider. Il n'y a aucune situation dans votre vie où vous allez pouvoir dire, là, Dieu ne peut pas m'aider. Alors, apportons-lui toutes nos circonstances. Apportons-lui cette fournaise. Ce n'est pas trop chaud pour lui. Apportons-lui tous nos soucis, toute notre souffrance. Et que par la puissance de Dieu, nous puissions éclater de sa gloire. Que nous ayons cette réaction de réjouissance au sein de la souffrance. Que nous soyons heureux de prendre part aux souffrances de Christ. Ça semble tellement radical et ça l'est parce que ça vient de Dieu. Et Dieu veut faire ça dans votre vie, dans la mienne. Il faut lui demander, et c'est ce que nous allons faire dans la prière, demander l'aide de Dieu, nous remettre devant lui ce matin. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi et nous reconnaissons ta parole. Nous voyons ces vérités et nous reconnaissons notre manquement. Nous te louons que tu ne nous laisses pas seuls dans ce monde pour nous débattre tant bien que mal. Tu ne nous demandes pas l'impossible parce qu'avec toi tout est possible. Et Seigneur, nous demandons ton aide pour agir comme Pierre nous l'explique ici. De nous réjouir, même au sein de nos souffrances, de nous souvenir que tu reviens, que tu vas examiner, nous souvenir que tu es le grand Dieu, tu es fidèle, c'est toi qui nous a créés, c'est toi qui rends capable de faire le bien. Nous implorons ton aide, Seigneur, nous sommes impuissants, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter. Nous avons besoin de ton aide pour cela et c'est ce que nous demandons avec foi, avec l'assurance que tu le feras parce que c'est selon ta volonté. En ton nom. Amen.